Bienvenue à la série « Le monde change ». Ici Michel Landry. Une série d'interviews, de reportages, de rencontres et des découvertes avec des gens d'ici et des proches qui nous témoignent des réalités d'ici et maintenant, avec la participation du Fonds canadien de la radio communautaire. Enfant, ceux de ma génération ont connu pour la plupart un seul Indien. La télé allait nous rendre visible un personnage qui meublera nos histoires. Je vous laisse deviner avec un extrait d'une série culte des années 70.
Ma mère est une Cherokee, mais mon père est venu au monde près d'Oxford et c'est là qu'on m'a élevé. Mes amis m'appellent Mingo.
Mingo?
Les visages pâles ne viennent pas souvent dans le Kentucky. Puis-je savoir ce que vous faites ici?
J'ai amené des familles qui projettent de s'y établir.
Les Indiens Shawnee et Cherokee n'ont pas encore enterré l'âge de guerre dans ces régions.
Ben, il ne faut pas se faire de soucis à l'avance.
Les Cherokee ont un dicton. Quand l'estomac est vide, on peut le remplir de soucis.
Nous aussi, on a un vieux dicton. On ne peut pas faire sortir de l'eau d'un puits sans mouiller le seau.
Daniel Boone, Daniel Boone, par la suite et le récit, la légende et l'histoire de Daniel Boone. Le couteau à la main fait son chemin en explorant l'Amérique. Il n'a peur de rien car il connaît bien les ruses des Indiens.
Une série qui mettait en scène les aventures du trappeur-explorateur Daniel Boone dans le Kentucky du 18e siècle. Il avait comme ami le meilleur qu'on puisse espérer, Mingo, un métis né d'une mère Cherokee et d'un père britannique de la région de Boston. Ensemble, ils communiaient avec une nature grandiose et encore intacte, prêt à vivre les aventures d'une vie trépidante et pleine de rebondissements. Il faut dire que dès 1936, Hollywood produira un film qui met en lumière ce véritable explorateur américain au fait d'armes qui vécut des liens étroits avec les Indiens de différentes nations, tantôt amis, tantôt ennemis. Les relations entre les nouveaux arrivants d'Europe et les Amérindiens ont été pour le moins tendues et presque toujours racontées par les vainqueurs. Les grandes étendues de forêts, lacs et rivières fécondes existent encore et plus près de nous, les Micmacs en Gaspésie qui réclament l'accès à des ressources et une reconnaissance de leur nation sur un vaste territoire. Et ils prennent les grands moyens. Je vous présente Donald Jeannot Engelhardt, Micmac, membre de la communauté Micmac de Gaspec en Gaspésie, titulaire de diplôme universitaire en droit, en publicité et en communication. Il possède aussi un diplôme de deuxième cycle en formation interculturelle. Il œuvre aux affaires autochtones en tant que gestionnaire de projet. Il s'est joint à l'équipe du secrétariat Mi'kmaway, Maui Obi. Et finalement, il a contribué à l'écriture du livre « Notre histoire », un ouvrage de référence sur l'histoire des Mi'kmaq en Gaspésie. Je lui ai d'abord demandé de nous parler du Conseil tribal de Gaspésie qui regroupe trois communautés Mi'kmaq, deux réserves, Keskapédiak et Listigui. Et les Mi'kmaq de Gaspésie qui forment une communauté, eux, autochtone, sans territoire attribué.
Le Mi'kmaway Maui-Omi est une organisation qui a été créée en 2000 avec l'accord, là, évidemment, des trois conseils de bande du Mi'kmaq de la Gaspésie, c'est-à-dire Gaspésie, Keskapédiak et Listigouche, dans l'objectif là, de travailler sur les points qui touchaient les trois communautés, les points sensibles, et de s'assurer là, d'avoir une plus grande voix au moment où ces besoins allaient se faire sentir.
L'objectif premier, c'est d'avoir accès aux ressources?
Oui, mais pas que. C'est important pour nous là, de s'assurer que le territoire traditionnel soit reconnu. Au début des années 2000, le secrétariat a entrepris un vaste projet de recherche là, qui a porté le nom de Wesgijiniwalwek, qui veut dire en Mi'kmaq la renaissance du peuple Mi'kmaq. Ce projet de recherche-là visait justement à essayer de repatrier toutes les évidences de l'occupation du territoire Mi'kmaq par les Mi'kmaq.
En Gaspésie?
En Gaspésie.
Et ça, est-ce que ça a porté fruit, cette étude?
Oui, ça a donné près de 26 rapports de recherche qui ont été faits par des professeurs universitaires un peu partout au Canada. Et le résultat est que nous, on a publié un livre là, dont j'ai pris part là, pour l'écriture et le Dr. Daniel Cyr aussi, le livre « Endatohanimenin », qui veut dire « Notre histoire », un document là, qui a été publié en français par les presses de l'Université d'Ottawa. Donc, il y a eu un livre qui a suivi toutes ces recherches-là. Et évidemment, les rapports de recherche eux-mêmes ont confirmé, évidemment, les attentes qu'on avait par rapport aux résultats des études qui ont été menées en ce temps-là.
Ces études, elles portaient sur les Micmacs présents en Gaspésie et un vaste territoire du Bas-Saint-Laurent?
Oui, la Gaspésie est une grande partie du Bas-Saint-Laurent.
Et ces études, elles se sont déroulées sur de nombreuses années?
Oui, on a commencé vers 2002, là, c'est là que le projet de recherche a débuté. C'était à cette époque-là très intensif. Là. Le secrétariat était axé à 90% sur tout l'aspect recherche. Donc, on a passé plusieurs années avec plusieurs chercheurs, des archéologues, des ethnologues, des historiens et des généalogistes de toutes sortes de disciplines académiques. Et on a vraiment focusé sur la réappropriation de l'histoire, de notre histoire, non seulement pour éventuellement faire des revendications, mais aussi pour éduquer nos propres membres par rapport à la connaissance qu'on avait sur l'occupation du territoire par nos ancêtres. Donc, ça avait un double objectif, cette étude-là. On a atteint, évidemment, nos objectifs quand on a publié le livre « Intertuahaniminen ».
Des recherches comme celle-là sur de nombreuses années peuvent représenter des sommes astronomiques?
Disons que en début de recherche, les coûts ont été assumés là, par le département de recherche du ministère des Affaires indiennes. Donc, on avait un budget chaque année pour effectuer un certain nombre d'études par année. On arrivait à faire 5, 6, 7, 8 rapports de recherche chaque année. Et évidemment, à un moment donné, là, il n'y avait plus de fonds disponibles. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on a arrêté de faire de la recherche qu'il n'y a plus de recherche à faire. Au contraire, il y en aurait encore beaucoup. Mais évidemment, le financement de ces recherches-là, c'est onéreux. Quand on n'a pas de financement pour le faire, bien évidemment, on se doit de cesser les activités de recherche dans le moment présent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les reprendre. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne trouvera pas d'autres sources de fonds pour les financer. Mais pour l'instant, là, il n'y a pas de recherches qui se font actuellement au secrétariat.
Ces études ont permis de localiser des territoires Micmac, le mode de vie, leurs coutumes. C'est un peuple nomade.
On dit plutôt que les Micmacs, c'était un peuple semi-nomade. On ne parle pas de nomadisme ici, dans le sens où ils suivaient des troupeaux pour s'alimenter sur de longs kilomètres, mais plutôt d'un camp à un autre camp, donc un camp d'hiver à un camp d'été. On sait exactement là quel était le mode de vie, les outils qu'ils utilisaient, comment ils se vêtissaient. Bon, tout ça, on connaît aussi des lieux où ça s'est produit. On a retrouvé des sites spirituels où des activités spirituelles ont été menées, où il y avait, par exemple, des sites où les pierres étaient choisies pour en faire des pointes de flèche, par exemple, et des outils qui allaient faciliter le mode de vie de l'époque.
Les Micmacs font partie de la nation la moins connue au Canada. On sait qu'elle s'est établie dans les Maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Labrador, Terre-Neuve et aussi en Gaspésie. C'était un peuple côtier.
J'aime pas le dire, mais c'est un peu le résultat là, de justement la colonisation. Il faut dire que les Micmacs ont été le premier peuple qui a été en contact avec Jacques Cartier et possiblement même les Portugais avant. Donc, l'impact que ça a eu sur les Micmacs est beaucoup plus grand que, par exemple, sur une communauté qui vit complètement dans l'Ouest canadien, parce que, eux, la colonisation s'est arrivée beaucoup plus tard, alors que nous, on était les premiers au front quand c'est arrivé. Donc, il y a eu beaucoup d'intermariages, il y a eu beaucoup de métissages. Donc, évidemment, ça fait en sorte qu'on est un peu plus invisible, et c'est sans doute une des raisons qui explique ça, que les Micmacs, c'est pas une première nation qui sur la sellette, je dirais.
Les recherches consultées tendent à prouver qu'il y avait une occupation du territoire par les Micmacs. On présume qu'ils proviendraient du Cap-Breton ou de l'île du Prince.
Il n'y a aucun doute. Et en fait, les îles de Madeleine font partie du territoire traditionnel Micmac. Il y a dans notre tradition orale des histoires qui nous racontent justement les traversées des Micmacs sur l'île pour différentes raisons. Tantôt, c'était pour des cérémonies. Tantôt, c'était pour le prélèvement des poissons ou des fruits de mer. Un peu comme l'île d'Anticosti, d'ailleurs. Hein? Les Micmacs allaient sur les îles de façon courante et très fréquente.
Pour revenir en Gaspésie, vous, aujourd'hui, il y a 3 communautés, dont 2 réserves et une communauté hors réserve, là, celle de Gaspé. Oui. Ça fait combien de gens qui sont inclus dans ces 3?
Autour de, je dirais, entre 5 et 7 000 personnes. Si on considère qu'il y a beaucoup de Micmacs de nos 3 communautés qui vivent dans les milieux urbains.
Vos défis à surmonter, quels sont-ils en 2022?
Bien, évidemment, toutes les questions qui sont relatives au territoire, hein, la gestion du territoire, c'est une question qui est très préoccupante. Par exemple, les baux de villégiature posent un problème pour un grand nombre de Premières Nations au Québec, mais particulièrement pour nous, les Mi'kmaq, puisque c'est le principe qui consiste à louer des terres avec des bails emphytéotiques à des citoyens qui mettent leur nom dans une loterie et qui viennent occuper comme ça un territoire qui leur sont attribués par le gouvernement du Québec. Et les baux de villégiature sont de plus en plus nombreux. Donc, ils occupent de plus en plus de territoires. Ce territoire-là, ben, c'est le territoire traditionnel des Mi'kmaq. Donc, nous, ça nous préoccupe pour plusieurs raisons, là, mais parce qu'il y a aussi les possibilités de déranger tous les écosystèmes là où ces gens vont s'installer. Depuis très peu, le gouvernement du Québec nous consulte par rapport aux baux de villégiature, mais avant, c'était fait systématiquement sans même nous en parler. On a réussi à mettre un certain nombre de tables actives là, pour être au moins au courant de quels sont les endroits où les occupants, par exemple, où ils seront localisés. Donc, ça nous permet au moins de le savoir et de leur offrir, lorsqu'ils viennent signer leur bail, le gouvernement du Québec organise une session de sensibilisation et ils prennent le temps de nous inviter pour présenter à eux et vraiment de leur expliquer un peu notre vision de la gestion du territoire puis de comment c'est important de respecter l'environnement et les Mi'kmaq qui sont dans la forêt. Parce que, évidemment, les Mi'kmaq ont des droits ancestraux, ils ont des droits issus de traités et qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes obligations que les Québécois en général. Donc, c'est important qu'ils le sachent parce qu'évidemment, ça évite le racisme, ça évite un paquet de mésaventures qui peuvent se produire là, lorsque les gens sont en forêt.
Est-ce que les gouvernements vous consultent pour les ressources du territoire?
Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont une obligation légale de nous consulter à tout ce qui touche les projets qui pourrait nuire au territoire. Et donc, on a une unité au secrétariat là, que nous, on appelle CNA, là, qui est pour consultation et accommodement. On a des employés qui se chargent de répondre aux demandes de consultation que les gouvernements nous font, qui sont très nombreuses. Souvent même, c'en est presque ridicule. Les demandes arrivent de partout, sur toutes les questions inimaginables. Et les délais de réponse, évidemment, sont très courts et puis souvent on n'a pas les ressources pour faire toutes les études qu'on aurait besoin de faire pour donner une réponse qui serait satisfaisante à nos yeux. Mais bon, au moins, on est consulté et on a une unité là, qui se charge de répondre à ces consultations-là.
Ces employés sont rémunérés par le conseil tribal, incluant les trois communautés Mi'kmaq en Gaspésie.
Ce sont des employés du secrétariat qui, il y a un employé qui est localisé directement à Gaspé, mais dans la communauté de Gaspé. Et il y en a à Gascapédiac et à Lestigouche. Et ces gens-là, quand il y a une demande de consultation qui est faite, dépendamment de la localité, de l'endroit où il va y avoir un projet, alors c'est la personne qui est le plus proche du projet là, qui va faire l'étude pour répondre à la demande de consultation.
Vous avez combien d'employés au conseil?
La pandémie n'a pas suffi. Il a fallu que nos bureaux brûlent. Et maintenant, on est en attente là, de réintégrer nos nouveaux bureaux. Donc, on est passé d'environ 22 employés à une dizaine. Puis là, maintenant, on doit être rendu autour de 11-12 employés.
Et votre conseil, la constitution légale, c'est une corporation à but non lucratif?
Oui, c'est une OSBL. Hein.
Et puis, vos argents proviennent d'où?
La plupart de notre financement provient du gouvernement du Canada. Et l'unité de CNA est beaucoup financée par le gouvernement du Québec, puisque souvent, les demandes de consultation, c'est sur le territoire du Québec. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui a la responsabilité de financer les demandes de consultation. Donc, on a du financement et du fédéral et du provincial. Et les Mi'kmaq, comme vous le savez sans doute, là, on a un parc éolien. Les trois communautés, ils détiennent un parc éolien en partenariat avec Innergest, ici en Gaspésie. Et le MMS a largement fourni des informations lorsque il y avait des études qui étaient obligatoires, là, qui ont précédé l'irrigation des éoliennes. Et à cause de ça, bien, évidemment, le MMS avait un titre dans la compagnie du MNBC là, pour recevoir une somme pour les études qu'elles ont fournies. Et donc, on a un certain montant d'argent là, qui provient du parc éolien pour ça, mais c'est un montant fixe.
Donc, il n'y a pas de redevance, si on veut.
Non, le MMS n'a pas de redevance sur le parc éolien, non.
Est-ce que vous avez d'autres sources de revenus? Est-ce que vous avez d'autres engagements, que ce soit des musées, des centres d'interprétation ou encore des loteries?
On n'a pas ce type de mandat-là. Donc, on s'occupe beaucoup plus de la négociation avec le gouvernement sur plusieurs sujets. Là. Donc, les ententes de reconnaissance des droits, par exemple, les ententes avec Parc Canada, Gaspé est actuellement en négociation avec le Parc Canada là, pour avoir une co-gestion du parc Forillon. Donc, on a des projets comme ça, mais ce ne sont pas des projets qui génèrent des revenus. Et chaque communauté dans notre organisation elle reste indépendante. Donc, s'ils ont des projets qui génèrent des revenus, c'est des revenus qui reviennent à la communauté elle-même. Notre conseil tribal n'a pas de mandat de développement économique. Le seul projet que les trois communautés ont réalisé, c'est le parc éolien. Et ce projet-là, il est détenu par les trois communautés à 50%. C'est le seul projet actif que les trois communautés détiennent ensemble. Les intérêts des trois communautés, via le secrétariat, c'est vraiment les négociations et les relations avec les gouvernements.
Donald, vous nagez dans cette sphère depuis déjà un bon nombre d'années. Quelles sont vos principales attentes actuellement?
D'abord, je pense que ce serait important que les non-autochtones comprennent le lien que les Mi'kmaq détiennent sur le territoire, qu'ils comprennent la relation et la façon dont les Mi'kmaq nourrissent cette relation-là avec le territoire. Quand on comprend ça, déjà, on va comprendre un peu mieux la vision du monde que les Mi'kmaq ont. Et quand on comprend la vision du monde, ça nous permet de mieux comprendre les gens. Et ça fait tomber beaucoup de préjugés, ça fait beaucoup tomber des choses qu'ils ont apprises qui étaient fausses. Et ça permet aussi de rapprocher les gens des différentes communautés ici en Gaspésie. On vit un peu chacun dans son petit monde, les communautés Mi'kmaq d'un côté et les non-autochtones de l'autre. Et il y a très peu, il y en a plus maintenant, là, depuis la création du MMS, il y a quand même beaucoup plus d'interactions. On voit quand même qu'il y a un effet là, du travail du MMS. Il faut dire que ça fait 20 ans là, qu'on existe. Il y a eu une amélioration dans les rapports et dans la connaissance de l'autre. Mais évidemment, c'est 500 ans de colonisation qu'il faut combattre. Et ça se fait pas en criant à Rachid Salé. Hein? Il faut travailler chaque jour. Il faut pas perdre d'espoir. Puis il faut pas se décourager. Ça serait trop facile. Puis aussi, il y a eu un grand moment où les Autochtones étaient vraiment isolés dans leur communauté. Il n'y avait pas le réflexe d'aller vers l'autre. Et ça, c'est une tendance qui tend à changer. Il y a une plus grande ouverture de part et d'autre, ce qui facilite les relations, ce qui facilite la communication entre les différents groupes.
En terminant, vous voulez adresser un mot à ceux qui veulent former une communauté Mi'kmaq aux îles de la Madeleine.
Bravo d'être là, puis bravo de continuer. Évidemment, les îles de la Madeleine, c'est notre territoire traditionnel. On connaît le Gaspé-Guaguay, on aime le Gaspé-Guaguay et on veut protéger le Gaspé-Guaguay et on le fait ici dans notre petit coin du monde. Et je pense que tous les Mi'kmaq des Maritimes le font aussi dans leur coin du monde. Mais on sait tous qu'on existe, on sait tous qu'on est là, puis on sait tous aussi qu'on est là l'un pour l'autre.
Willalin.
Willalin.
Ce qui veut dire merci en Mi'kmaq, Donald Janot Engelhardt, responsable des communications au Conseil tribal Gaspésie. Bonne route.
Ça me fait plaisir.
Merci d'avoir pris part à cette aventure consacrée aux Autochtones et Métis. Ici Michel Landry qui vous donne rendez-vous très bientôt avec un dernier épisode consacré aux Autochtones et Métis dans la série « Le monde change ».